Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Recherche don du sang, désespérément, c'est ce cri d'alarme que lancent désormais de plus en plus régulièrement les hôpitaux et le ministère de la Santé bulgare. Les nombreuses campagnes d'information n'ont pour l'instant pas réussi à inverser la tendance. La pénurie est là et avec elle se développe un marché noir des donneurs de sang. C'est le reportage en Bulgarie de Damien Vodonicharov.
Difficile de prévoir quand on aura besoin de sang. Milan, comme la plupart des Bulgares, ne pensait pas devoir s'y confronter un jour. Il y a quelques mois, il a dû faire face à une réalité troublante, mais inconnue.
Mon père venait d'être admis d'urgence à l'hôpital. C'était une nuit, tard le soir. Après un certain temps, on nous a demandé à mon frère et moi de faire don de notre sang pour une transfusion totale. Je crois qu'ils avaient besoin d'une quinzaine de poches.
Une quantité énorme, impossible à fournir aussi rapidement quand on sait qu'une personne ne peut faire don que d'une poche tous les deux mois. Milan se voit donc contraint de trouver en urgence 15 volontaires. Lui-même et son frère ne peuvent pas participer. Ils ont des taux très élevés de plomb dans leur sang puisqu'ils sont ingénieurs métallurgistes. Il ne reste qu'une solution.
Je devais trouver un autre moyen, c'est-à-dire demander à mes amis de faire un don ou bien chercher des gens qui vendent leur sang. Mais on n'a trouvé personne.
À Pazardjik, la ville où le père de Milan s'est fait opérer, il est difficile de tomber sur ce genre de trafic. Le père de Milan a pu se rétablir, mais les réserves de l'hôpital sont tombées dans le rouge. Dans la capitale Sofia, ces vendeurs de sang à la sauvette sont partout, près des banques de sang ou devant les hôpitaux. Ils abordent même les gens pour proposer leurs services. On les retrouve dans un pavillon à la sortie du Centre National de Transfusion. Le prix est ouvert au marchandage.
Là, ce sont les gens qui nous proposent un prix. Il n'y a pas de prix fixe, ça dépend d'eux. Ça peut aller de 50 à 100 euros la poche.
Et pourquoi est-ce que vous le faites ?
Pour ne pas avoir faim, on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce que les dirigeants ne viennent pas donner leur sang ? Ils sont riches, c'est pour ça. Borisov n'a qu'à venir ici.
Les proches des patients, ils ne viennent pas ?
Si, quand il y a besoin, ils viennent.
Donc vous êtes là en dernier recours ?
Oui, dans la plupart des cas, ce sont les proches qui donnent du sang.
À travers le pays, c'est le même cas de figure. Il y a des réserves pour les cas urgents, mais même les grands hôpitaux ne peuvent se permettre trop de transfusions sans garantie de récupérer de nouvelles poches de sang par la suite. Et plus l'opération est compliquée, plus les médecins ont besoin de sang, explique le docteur Milka Simova, qui travaille aux urgences de l'hôpital militaire de Sofia depuis 7 ans.
On peut assurer une transfusion ou deux, mais quand il faut intervenir plusieurs fois avec une perte de sang importante ou quand le patient est anémique, on sait qu'on aura besoin de 4 ou 5 transfusions.
Il arrive même que des opérations chirurgicales soient reportées pour faire des économies de sang. Il ne s'agit pas de cas urgents, bien entendu, mais d'opérations planifiées et de patients suivis par des équipes spécialisées.
Lorsque l'équipe estime que c'est possible, elle peut remettre l'opération à plus tard pour avoir le temps de collecter la quantité de sang nécessaire. Opérer sans avoir de quoi transfuser est risqué. Si le patient est anémique, si on sait qu'il va perdre beaucoup de sang et si on peut attendre quelques jours, on le fait. Cette décision est prise après examen du patient. S'il est impossible d'attendre, on n'attend pas. Alors on compte sur les réserves.
Les médecins jouent les équilibristes face à un marché entièrement déstructuré. La crise remonte à la chute du communisme. Auparavant, les Bulgares avaient la quasi-obligation de faire un don. Aujourd'hui, ils sont libres et ils choisissent surtout de ne rien faire, explique le docteur Nikolai Andreev, directeur du Centre National de Transfusion.
En ce moment, seuls 25% des dons dans le pays proviennent de volontaires. On compte en fait sur les proches des patients pour les 75% restants. Ce ne devrait pas être le cas. L'Organisation mondiale de la santé estime que tous les dons dans le monde devraient être le fait de volontaires d'ici à 2020. Si un patient n'a pas de proche, qu'est-ce qu'on fait ? On ne l'admet pas à l'hôpital ?
Pour remédier à cette crise du sang, le centre de transfusion organise des campagnes nationales. Des laboratoires mobiles sont alors mis à disposition des gens dans les différentes villes du pays. Des spots avec des célébrités sont également diffusés sur les chaînes publiques. Les volontaires ont également droit à des jours de congé pour avoir fait don de leur sang. Malgré tout, la campagne qui s'est achevée en septembre est décevante. 170 personnes ont répondu à l'appel, mais plus de 600 personnes par jour sont dans l'attente.
Една кампания на Националния център по трансфузионна хематология, Фибанк и Българска национална телевизия.
proud to say, I am an European.
La surpopulation dans les prisons, la question n'a pas fini d'embarrasser nos gouvernements qui doivent désormais gérer aussi le problème de la radicalisation, alors que le déficit des places paraît chronique depuis 1990. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors peut-on dire qu'on a laissé la situation se dégrader en France ?
D'abord, on ne peut pas dire que rien n'a été fait en France. Depuis 1990, le nombre de places dans les prisons a augmenté de 60%. Le nombre de prisonniers sous surveillance électronique est passé en 10 ans de 1000 à 10 000. De nombreuses peines courtes ont été aménagées, mais depuis 25 ans, le nombre de prisonniers écroués s'est accru en France de 24 000. Résultat, le taux d'occupation qui était de 124% en 1990, soit 24% de population carcérale en excès des places disponibles, est revenu à 104 en 2000 pour repartir ensuite à la hausse, 108 en 2010 et 114 au 1er janvier 2016. Sous l'effet de l'état d'urgence, le nombre de prisonniers explose, passant de 66 700 en janvier à 69 400 en juillet, soit une hausse de 4%. Du coup, le taux d'occupation remonte à 119. On est pratiquement revenu au niveau de 1990.
Et que constate-t-on chez nos voisins européens sur la même période ?
À partir des chiffres établis chaque année par le Conseil de l'Europe, on constate que la tendance chez nos voisins est inverse. Si l'on prend les 10 premiers pays d'Europe occidentale, seul le Portugal connaît une dégradation marquée depuis 2010 et affiche début 2016 un taux d'occupation de 137, encore plus catastrophique donc que celui de la France. Partout ailleurs, la situation s'est améliorée en 6 ans et parfois de façon spectaculaire, comme en Italie où le taux a été ramené de 153 à 108. C'est la conséquence d'une politique pénale de substitution à la prison, le nombre de condamnés écroués dans la péninsule ayant diminué de 15 000. À ce jour, seuls 4 pays sont encore en surpopulation, dans l'ordre le Portugal, la France, la Belgique et l'Italie. Le taux d'occupation des prisons est même descendu entre 80 et 85% en Allemagne, en Espagne, en Suède ou aux Pays-Bas. Ce dernier pays va même jusqu'à louer certaines de ses prisons à la Belgique voisine.
Et cela veut dire que ces pays sont moins répressifs ?
Pas forcément. On peut se faire une idée du degré de répressivité en considérant le taux d'incarcération par rapport à la population. En 2015, pour 100 000 habitants, ce taux est très élevé en Angleterre et Pays de Galles, 148, et en Espagne, 143. Il est en revanche réduit en Allemagne, 76, aux Pays-Bas, 60, et surtout en Suède, 55. À cet égard, la France apparaît comme un pays moyennement répressif avec un taux de 100. Attention, degré de répressivité n'est pas synonyme de laxisme. Un nombre réduit de personnes incarcérées signifie que les peines alternatives à l'emprisonnement ont été multipliées, et notamment ce que l'on appelle la détention ouverte, les peines s'effectuant sur des lieux de travail non gardés. Ce système a été particulièrement développé au Danemark.
Et ils obtiennent de bons résultats ?
Alors, moins de gens enfermés et moins longtemps, c'est toujours un bon résultat. Les comparaisons internationales en matière de taux de récidive sont assez délicates à établir, mais une étude américaine fait apparaître que le taux de nouvelles condamnations après un séjour de 2 ans en prison n'est que de 29% au Danemark, contre 48% en Allemagne et 59% en France et en Angleterre. Le système danois de détention ouverte présente toutefois un inconvénient manifeste. Le taux moyen d'évasion entre 2007 et 2013 y est le plus élevé d'Europe, avec 35 évasions pour 10 000 prisonniers. En France, ce taux n'est que de 6,8.
Et qu'en est-il des conditions de vie en prison ?
Le taux de suicide pour 10 000 détenus fourni par le Conseil de l'Europe peut constituer une mesure de la situation morale et psychologique des prisonniers. Dans ce domaine, la France est le pire pays d'Europe occidentale, avec un taux moyen de 15 sur une période 2007-2013.
Et au final, Daniel, comment expliquer les mauvais résultats de la politique pénitentiaire française ?
Longtemps, ce fut le manque de moyens budgétaires dévolus au monde carcéral. Depuis quelques années, cependant, la France a fait des efforts indéniables. Mais avec à peine plus de 100 euros dépensés par jour et par détenu, les dépenses carcérales françaises restent inférieures aux dépenses en Angleterre, 109 euros, en Allemagne, 112 euros, en Italie, 130, et surtout au Danemark, 180 euros et par-dessus tout en Suède, où ces dépenses atteignent, tenez-vous bien, 356 euros. Mais je vous dirais, Frédéric, que la raison de fond de l'inefficacité de la politique carcérale française tient au manque de cohérence des politiques menées par les majorités successives au pouvoir.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
C'est une île de la mer tyrrhénienne, volcanique, aujourd'hui lieu de villégiature pour les Romains. Mais l'île italienne de Ventotene est d'abord un symbole européen. C'est là que furent enfermés les opposants au fascisme, dont Altiero Spinelli, un des pères de l'Europe. Une île prison qui n'a pas fini de faire parler d'elle, Mathilde Villain.
Déjà à l'époque romaine, Néron envoyait sa femme sur l'île de Ventotene, pas pour des vacances à la plage, bien que la géographie de l'îlot au large des côtes entre Rome et Naples soit propice à l'osium. Non, l'empereur y envoya son épouse qu'il venait de répudier, tout simplement pour s'en débarrasser. L'île de Ventotene avait donc déjà une longue tradition d'île d'exil avant que Mussolini n'y envoie les opposants à son régime fasciste. Entre 1941 et 1943, le Duce y expédia en confinement tous ceux qu'il voulait éloigner pour les faire taire. Et pour être certain qu'ils ne s'échappent pas, ceux-ci furent confinés sur une autre île à 2 km au large de Ventotene, l'île de Santo Stefano. Et c'est sur cette île prison que germa le premier manifeste fondateur du fédéralisme européen sous la plume d'un des pères de l'Europe, Altiero Spinelli. Déporté sur l'île entre 1939 et 1943, le jeune militant antifasciste y rédigea le manifeste pour une Europe libre et unie sur des feuilles de papier à cigarettes. Aujourd'hui, cette prison, lieu symbolique de l'histoire de la construction européenne, menace de s'effondrer. Alors l'occasion était toute trouvée pour Matteo Renzi de s'afficher en reconstructeur, lui qui cherche à redonner à l'Italie sa place parmi les pays moteurs du projet européen. Fin août, il a invité Angela Merkel et François Hollande à Ventotene pour parler du futur de l'Europe après le Brexit. Matteo Renzi a débloqué 80 millions d'euros afin de réhabiliter la prison en ruine. Il veut en faire un campus pour les élites européennes de demain.
La crise en Grèce a fait émerger de nouveaux modèles, y compris dans les médias. La preuve avec ce journal des rédacteurs, un quotidien classé à gauche et qui va fêter sa 4e année d'existence. Avec à peine 10 000 lecteurs, sa viabilité financière est assurée. Charlotte Stevenard est allée rencontrer ses journalistes qui sont aussi actionnaires.
Il est 10h du soir au journal des rédacteurs. Comme dans les autres quotidiens grecs, la dernière conférence de rédaction a lieu tard. Les chefs de service ont enfin choisi la une sous l'œil de Nicolas Voulelis, le rédacteur en chef.
Tu as le titre ? Prêche obscurantiste.
Yatir, pourquoi vous avez choisi d'en faire la une ?
Parce que c'est plus important aujourd'hui, on n'a rien de mieux. Et c'est à propos d'un texte de l'archevêque, une déclaration de guerre à la gauche.
Pour Nicolas Voulelis, ce quotidien est une expérience unique en Grèce. Les propriétaires, ce sont les environ 150 salariés. Avant, la plupart travaillaient pour un autre quotidien, Eleftherotypia, la presse libre en français.
Ce journal a fermé en 2011 à la suite d'une faillite. Beaucoup de journalistes y travaillaient. Ils ont commencé à chercher ce qu'ils pourraient faire et ils se sont dit, eh bien, on va faire notre propre journal. C'est pour ça que ça s'appelle le journal des rédacteurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas de propriétaire, c'est nous. Tous les revenus qu'on tire de la vente ou de la publicité, c'est pour notre paye. Et si on ne fait pas de bénéfices, eh bien, on n'a pas de salaire. On s'est mis d'accord dès le premier jour que, quelle que soit l'ancienneté, 2, 12 ou 15 ans, on perçoit tous la même chose. Donc on gagne 1000 euros bruts, c'est-à-dire 800 euros nets.
C'est ça. Sauf Nicolas Voulelis lui-même, en réalité retraité. Il travaille bénévolement par intérêt pour le projet. En 2012, les autres rédacteurs, eux, ont accepté de renoncer à leurs 2 premiers mois de salaire.
Le monsieur Psara, tu le connais ?
Mais
Dans la salle principale, Dimitris Psaras, 63 ans, enquêteur chevronné. Il fait partie de ceux qui ont lancé l'idée du journal. Ce n'était pas facile selon lui car la Grèce n'a pas la culture des coopératives. Mais aujourd'hui, le journal profite de son indépendance pour toucher à tous les sujets.
Dans ce journal, chacun est libre de dire des choses complètement différentes. La plupart disent que le journal est proche de Syriza, du gouvernement, etc. Mais les choses les plus dures contre le gouvernement et Syriza, c'est dans notre journal qu'on peut les lire. Les caricatures du Premier ministre et des ministres, ce sont dans notre journal qu'elles sont les plus extrêmes.
Et selon Dimitris Psaras, même le fait de dépendre en partie de la publicité n'est pas un obstacle.
Je peux prendre par exemple l'histoire des mines d'or de Chalkidiki. Nous avons soutenu le combat des habitants opposés au plan d'extraction de l'entreprise, ou encore d'autres enjeux comme la contamination du golfe Saronique, non loin d'Athènes, par les raffineries de pétrole. L'entreprise qui possède les raffineries fait de la publicité dans notre journal. C'est sûr qu'il est difficile de publier ce genre d'informations, surtout quand il y a un risque que la publicité s'arrête, mais nous l'avons fait.
C'est cette indépendance qui a attiré Kostas Zafiropoulos, qui travaillait pour la chaîne Mega, une des plus grosses télévisions privées du pays. Une chaîne où la liberté éditoriale a de sérieuses limites quand on sait que son principal actionnaire est Yorgos Bobolas, patron d'un empire dans le domaine de la construction. C'est un exemple de ce qu'on appelle en Grèce la diaploquie, le triangle de dépendance entre le monde politique, les banques et les médias. Au journal des rédacteurs, Kostas Zafiropoulos apprécie aussi la concertation démocratique, même si ce n'est pas toujours facile pour ce trentenaire.
Nous sommes un journal où tu ne gagnes pas beaucoup, même si on te paye dans les temps. Mais c'est difficile de former une équipe avec tout le monde. Ce sont 130 personnes avec des points de vue très différents. La prise de décision peut être difficile. C'est pour ça que nous avons gardé le schéma hiérarchique habituel des journaux classiques.
Pas si classique cependant, ici les employés peuvent demander à changer de chef de service par vote. Ce journaliste de 35 ans explique aussi qu'ils sont mieux informés sur l'état économique du journal, car leurs salaires en dépendent directement.
Nous savons ce qui se passe du point de vue économique, car nous nous informons lors de l'Assemblée Générale qui a lieu tous les 1, 2 ou 3 mois, et dans un rapport annuel sur l'état financier du journal. Donc nous contrôlons, nous aussi, selon notre niveau de connaissance, le directeur administratif et financier et la façon dont il gère le journal, où va l'argent, car cela nous concerne.
La première année a été difficile, mais désormais le journal a un lectorat petit mais stable et de la publicité. Cela lui permet de s'en sortir tout juste, mais sans s'endetter.
Et on terminera notre voyage européen avec une drôle de destination. À 8h30 d'avion de Moscou, en plein océan Pacifique, sur la péninsule de Kamtchatka, on a édifié un monument qui représente deux ours avec cette inscription qui fait rêver. C'est ici que commence la Russie. Étienne Bouche est allé y jeter un œil.
Si l'ours est l'un des emblèmes de la Russie, il l'est d'autant plus au Kamtchatka. Sur ce territoire russe d'Extrême-Orient, on peut apercevoir l'été le long des rivières des ours pêcher des saumons couleur carmin. Pour un habitant de Moscou, le Kamtchatka, c'est l'autre bout du monde, un morceau de Russie qui fait fantasmer les voyageurs. Moins d'un habitant au kilomètre carré. À 9 fuseaux horaires de la capitale, la péninsule a été découverte au XVIIIe siècle par Vitus Bering, celui qui a donné son nom au détroit séparant la Russie et l'Alaska. L'explorateur danois travailla au service de l'Empire russe et fut chargé de mener des expéditions en Extrême-Orient. Il devait notamment y trouver la fin du continent. La seule ville significative de la péninsule, Petropavlovsk, a été fondée à cette période. Sa position géographique a fait du Kamtchatka une zone militaire stratégique. C'est pour cette raison qu'il fut un territoire fermé jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Depuis, faute de perspectives économiques, la région a perdu une partie de ses habitants. Mais depuis quelques années, sa nature sauvage et son relief volcanique attirent les touristes, russes et étrangers. On y trouve plus de 300 volcans éteints et 30 en activité. Une partie d'entre eux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Forcément, le Kamtchatka est l'une des fiertés des Russes. Son monument aux ours faisait d'ailleurs partie des visuels en lice pour figurer sur les futures coupures de 200 et 2000 roubles.
C'est Mathieu Salaber qui assurait la réalisation de ce magazine, rediffusion de plusieurs reportages d'Accent d'Europe, à retrouver sur notre site rfi.fr et notre page Facebook. À très bientôt.
Les grandes voies d'Afrique.